À l'intérieur, il faisait assez sombre et des dégagements étaient réduits au strict minimum. Elles traversèrent une cuisine et pénétrèrent dans une pièce en enfilade qui était de toute évidence la salle de séjour de la famille. Cette partie de la bâtisse n'avait rien d'enthousiasmant. Ce devait être un ajout tardif, ne remontant guère avant l'époque victorienne. La configuration générale faisait penser à une sorte de long boyau, de corridor qui aurait autrefois desservi l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée. Pas de doute, la façon dont on avait divisé la maison ne manquait pas de bizarrerie. « Asseyez-vous, j'apporte le thé, » dit Madame Perry. « Permettez-moi de vous aider. Ne vous donnez pas cette peine, je n'en ai que pour 2 secondes. Le plateau est déjà prêt. » Un sifflement leur parvint de la cuisine. La bouilloire était manifestement sortie de sa phase d'apathie. Madame Perry quitta la pièce et revint 1 minute plus tard avec, sur un plateau, le thé, des scones, un pot de confiture, 3 tasses et 3 soucoupes. « Vous êtes sûrement déçus, maintenant que vous avez vu l'intérieur, » dit Madame Perry. La remarque était judicieuse et bien près de la vérité. « Oh, non, » se défendit Tupens sans conviction.
« Eh bien, moi, à votre place, je le serais, parce que... ils ne vont pas ensemble, vous ne trouvez pas? Je veux dire, l'avant et l'arrière de la maison. Cela dit, elle est confortable. Il n'y a certes pas beaucoup de pièces, pas beaucoup de lumière non plus, mais on s'y retrouve dans le prix. »
« Qui a divisé la maison et pourquoi ?»«
Oh, ça s'est fait il y a de nombreuses années, je crois. Je suppose que les propriétaires la trouvaient trop grande ou trop incommode. Ils ne voulaient sans doute qu'y passer les week-ends. » Alors ils ont gardé les belles pièces, la salle à manger, le salon, ils ont transformé le petit bureau en cuisine et au premier étage, ils ont pris encore 2 chambres à coucher et une salle de bain. Et puis, ils ont muré le tout, laissant de l'autre côté les cuisines et les anciennes arrière-cuisines qu'ils ont un peu retapées.
Qui vit dans l'autre partie de la maison? Quelqu'un qui ne vient que le week-end?
Personne n'y vit en ce moment, répondit Madame Perry. Prenez donc encore un scone, mon petit.
Merci.
Du moins, personne n'est venu ces 2 dernières années. Je ne sais même pas à qui appartient la maison aujourd'hui.
Mais quand vous êtes arrivé la première fois?
Une jeune femme avait l'habitude d'y venir en coup de vent, une actrice, paraît-il. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Mais nous ne l'avons jamais vraiment vue, à peine entrevue de temps à autre. Elle arrivait tard le samedi soir, après le spectacle, je suppose, et elle repartait le dimanche en fin d'après-midi.
Une femme très mystérieuse, hasarda Tupens d'un ton encourageant.
C'est bien comme ça que je me la représentais justement. J'inventais des histoires à son sujet. Parfois je la voyais en Greta Garbo, se promenant comme elle, vous savez, avec des lunettes noires, le feutre enfoncé sur la tête. Oh, mon Dieu! Et moi qui ai gardé mon chapeau de sorcière sur la mienne!
Elle l'ôta en riant.
C'est pour une pièce que nous allons donner à Sutton Chancellor, expliqua-t-elle. Une espèce de conte de fées surtout destiné aux enfants. Je joue le rôle de la sorcière.
Oh, s'écria Tupens, légèrement déconcerté. Comme c'est amusant, ajouta-t-elle aussitôt.
Oui, n'est-ce pas? Je serais parfaite en sorcière, non?
Ajouta-t-elle en riant et en se tabotant le menton.
J'ai la tête de l'emploi. J'espère que cela ne va pas donner des idées aux gens, d'ici à ce qu'ils s'imaginent que j'ai le mauvais œil.
Je ne crois pas qu'on puisse penser ça de vous, se récria Tupens. Ou sinon, je suis sûr que vous seriez une sorcière bienfaisante.
« Je suis contente que ce soit ce que vous pensez, » répliqua Madame Perry. « Comme je vous le disais, cette actrice, je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mademoiselle Marchmont, je crois bien, mais c'est peut-être tout à fait autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que je me suis raconté à son sujet. En réalité, je l'ai à peine vue et je lui ai à peine parlé. » Parfois, je me dis qu'elle devait être tout simplement très timide, un peu névropathe. Elle n'acceptait jamais de recevoir les reporters qui se présentaient. À d'autres moments, vous allez trouver que je suis folle. Je me figurais toutes sortes de choses sinistres à son sujet. Qu'elle avait peur d'être reconnue, par exemple. Qu'elle n'était peut-être pas actrice du tout, que c'était une criminelle, et qu'elle était recherchée par la police. C'est très amusant, parfois, d'inventer des histoires de ce genre, surtout quand... Eh bien, quand on ne voit pas grand monde.
Elle venait toujours seule?
Ma foi, je n'en jurerais pas. Ces murs qu'on a élevés quand on a partagé la maison en 2, eh bien, ils ne sont pas très épais et on entendait parfois des voix. Il me semble qu'elle amenait quelqu'un avec elle à l'occasion. Sans doute, un homme,
ajouta-t-elle en hochant la tête.
C'est peut-être pour ça qu'il désirait un coin tranquille comme celui-là.
Un homme marié, suggéra Tupens, entrant dans le jeu. « Oui, marié, c'est ce qu'il y a de plus vraisemblable. »
Ou alors c'était son mari qui venait avec elle. Il avait acheté cette maison isolée parce qu'il voulait la tuer. Il l'a peut-être enterrée dans le jardin.
« Seigneur !» s'écria Madame Perry. « Vous en avez une imagination ! Je n'avais jamais pensé à ça !»«
Il y a quand même quelqu'un qui doit savoir qui elle est, » remarqua Tupens. « J'entends un agent immobilier, quelqu'un de ce genre. »«
Ça, sans doute !» acquiesça Madame Perry. « Mais je préfère ne pas le savoir, si vous comprenez ce que je veux dire. »«
Oh oui !» répliqua Tupens. « Je comprends. »
« Cette maison a une drôle d'atmosphère, vous savez. Elle donne l'impression que n'importe quoi peut arriver. »
« Personne ne venait faire son ménage, par exemple ?»«
C'est difficile de trouver quelqu'un ici. Il n'y a pas âme qui vive dans les environs. »
La porte d'entrée s'ouvrit devant l'homme qui travaillait dans le jardin. Il se lava d'abord les mains au robinet de l'arrière-cuisine et pénétra ensuite dans la salle de séjour.
« Je vous présente Amos, mon mari, » dit Madame Perry. « Nous avons de la visite, Amos, Madame Beresford. »«
Comment allez-vous ? » dit Tupens. Amos Perry était grand et dégingandé, plus grand et plus imposant qu'il n'avait d'abord paru à Tupens. En dépit de sa minceur et de la lenteur de sa démarche, il était fort et tout en muscles. « Enchanté de faire votre connaissance, Madame Beresford, » répondit-il. Il avait une voix et un sourire agréables, mais Tupens se demanda un instant s'il avait bien toute sa tête. Il avait le regard un peu ailleurs. Madame Perry avait-elle cherché à habiter un endroit tranquille à cause de quelque trouble mental chez son mari ?
« Il adore son jardin !» signala Madame Perry.
En sa présence, la conversation s'éteignit. Madame Perry était à peu près seule à parler encore, mais elle n'était plus la même. Inquiète, elle gardait l'œil fixé sur son mari. Tupens avait l'impression qu'elle s'efforçait de l'encourager, comme une mère craignant que son fils ne soit pas à la hauteur, peut le pousser à parler et à se montrer sous son meilleur jour devant un étranger. Dès qu'elle eut fini son thé, Tupens se leva. « Je dois m'en aller. Merci beaucoup, Madame Perry, pour votre hospitalité. »«
Il faut que vous voyez le jardin avant de partir, » intervint Monsieur Perry en se levant à son tour. « Venez, je vais vous le montrer. » Elle le suivit dehors jusqu'à l'endroit où elle l'avait vu bêcher. « Jolie fleur, hein ? J'ai des roses anciennes, ici, regardez celle-là, avec son panachage de rouge et de blanc. »«
Commandant Beaurepaire, » diagnostiqua Tupens.
« Nous, ici, on les appelle York et Lancastre, » rectifia Perry, « en souvenir de la guerre des deux roses. »« Elles sent bon, non ?
Délicieusement bon. »
Bien meilleur que leurs hybrides de thé actuels. Ce jardin avait des aspects touchants. Les mauvaises herbes n'étaient pas vraiment tenues en respect, mais les fleurs elles-mêmes, bien qu'en amateur, étaient amoureusement soignées.
Des couleurs vives, reprit Monsieur Perry. J'aime les couleurs vives. Des tas de gens s'intéressent à notre jardin. Je suis content que vous soyez venu.
Je trouve votre jardin et votre maison vraiment très jolis, le félicita Tupens.
« Vous devriez voir l'autre côté. »«
Votre femme m'a dit que personne ne vit dans cette maison. »«
Elle est à louer ou à vendre ?»«
Nous n'en savons rien. Il n'y a pas d'écriteau et personne ne vient jamais la visiter. »«
Elle doit être bien agréable à habiter. »«
Vous cherchez une maison ?»«
Oui, » répondit Tupens, saisissant la balle au rebond.
« En fait, oui, nous cherchons quelque chose à la campagne pour le jour où mon mari se retirera. »« L'année prochaine, probablement. Mais nous voulons prendre notre temps. »
« C'est tranquille ici, si vous aimez la tranquillité. »«
Je peux sans doute m'adresser à l'agence immobilière locale, c'est ce que vous aviez fait ?»«
Nous avions d'abord vu une annonce dans le journal, et après nous sommes allés à l'agence, oui. »«
Où cela ? À Sutton Chancellor ?
C'est bien le village dont vous dépendez. »«
Non, l'agence est à Market Basing. Son nom, c'est Russell and Thompson. Vous pourriez les interroger. »«
Oui, en effet, » acquiesça Tupens. « C'est loin d'ici, Market Basing ?»
Il y a 4 kilomètres jusqu'à Sutton Chancellor et encore 10 kilomètres après jusqu'à Market Basing. À partir de Sutton Chancellor, la route est bonne, mais ici, ce ne sont que des chemins de campagne.
Je vois. Eh bien, au revoir, Monsieur Perry, et merci de m'avoir montré votre jardin.
Attendez une seconde.
Il cueillit une énorme pivoine et, attrapant Tupens par le revers de sa veste, la lui mit à sa boutonnière.
Et voilà. Voilà, voilà, vous êtes très jolie avec ça, très jolie, ça oui.
Tupens eut un bref instant de panique, ce brave homme grand et fort l'effrayait soudain. Il la dévisageait en souriant d'un sourire un peu hagard, presque lubrique. « Ça fait très joli sur vous, » reprit-il. « Très joli. » « Je bénis le ciel de ne plus être une gamine, » songea Tupens. « Je ne crois pas du tout que j'aurais apprécié qu'il me mette une fleur à la boutonnière. » Elle lui dit au revoir et se dépêcha de s'éloigner. La porte de la maison était ouverte. Tupens entra pour prendre également congé de Madame Perry. Celle-ci était dans la cuisine, en train de laver la vaisselle du thé. Machinalement, Tupens attrapa un torchon et se mit à l'essuyer. « Je vous remercie beaucoup, » dit-elle. « Vous vous êtes montré si aimable, votre mari et vous, si hospitalier avec moi. » « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Du mur de la cuisine, ou plutôt de derrière le mur où autrefois devait se trouver une vieille cuisinière à charbon, de grands cris rauques leur parvenaient ainsi que des coups de griffes. « C'est un chouka qui a dû tomber dans la cheminée de l'autre maison. Ça leur arrive à cette époque de l'année. La semaine dernière, il y en a un qui est tombé dans la nôtre. C'est dans les cheminées qu'ils font leur nid, vous savez. »
« Quoi, dans l'autre maison ?»«
Oui. Ça y est, ça recommence. » De nouveau, les criaillements de détresse de l'oiseau leur parvenaient. « Il n'y a personne pour s'en soucier à côté, vous comprenez. Les cheminées, ça devrait être entretenu et nettoyé régulièrement. »
Les coups de griffe et les criaillements ne cessaient toujours pas. « Pauvre oiseau, » s'émut Tupens.
« Je sais, il ne pourra jamais ressortir de là. »
« Vous voulez dire qu'il va mourir là-dedans ?»«
Oh oui. Comme je vous l'ai dit, il y en a un qui est tombé dans notre cheminée. Deux, en fait. » L'un était tout jeune, il était indemne, on l'a porté dehors et il s'est envolé, mais l'autre était mort.
L'agitation et les criaillements frénétiques n'en finissaient pas. « Oh !» s'écria Tupens, « si seulement on pouvait y aller !» Monsieur Perry passa la tête par la porte. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il en les regardant tour à tour.
« Il y a un oiseau, Amos. Il doit être dans la cheminée du salon à côté. Tu l'entends ?»«
Eh, ça vient droit du nid de chouka. »
« Si seulement on pouvait leur venir en aide !» dit Madame Perry.
« Bah, de toute façon, tu ne pourrais rien faire. Ils vont mourir de peur, sinon d'autre chose. »«
Alors ça va sentir !» souligna Madame Perry.
« D'ici, tu ne sentiras rien. Vous avez le cœur tendre, » remarqua-t-il en les regardant l'une et l'autre. « Comme toutes les femmes. On peut y aller, si vous voulez. »«
Comment ça, il y a une fenêtre ouverte ?»«
On peut entrer par la porte. »«
Quelle porte ?»
Celle qui donne ici, sur la cour. Les clés sont accrochées au-dessus. »
Il les conduisit jusqu'au mur de la maison et ouvrit une petite porte qui donnait sur une espèce de serre de bouturage. De là, une autre porte menait dans la maison. À droite du chambranle, 6 ou 7 clés rouillées étaient suspendues à un clou.
« C'est celle-là, » décréta M. Perry.
Il en attrapa une qu'il mit dans la serrure et, après force ruse et cajolerie, finit par la faire tourner.
« J'y suis déjà entré une fois, » expliqua-t-il. « J'avais entendu de l'eau couler. Quelqu'un avait mal refermé un robinet. »
Les deux femmes le suivirent à l'intérieur, dans un réduit où se trouvaient encore des vases sur une étagère et un évier doté d'un robinet.
« C'est sans doute là qu'on s'occupait des fleurs, vous voyez. Il reste encore tout un tas d'ustensiles. »
Il y avait une autre porte, pas même verrouillée. Ils l'ouvrirent. Tupens eut l'impression cette fois de pénétrer dans un autre monde. Il y avait un tapis de laine dans le couloir et, d'une porte entr'ouverte, leur parvenaient les cris d'un oiseau en détresse. Les volets intérieurs étaient clos, mais l'un d'eux, mal fermé, laissait pénétrer un ray de lumière. Malgré la semi-obscurité, on distinguait sur le sol un magnifique tapis vert cendré et, contre le mur, une bibliothèque. En revanche, il n'y avait ni table ni chaise. Les meubles avaient été enlevés et on n'avait laissé que les rideaux et les tapis à l'intention du prochain locataire. Madame Perry s'approcha de la cheminée. Empêtrée dans la grille, un oiseau poussait des cris de détresse. Elle l'attrapa.
« Ouvre la fenêtre si tu peux, Amos »
dit-elle. Amos alla ouvrir les volets intérieurs et poussa la fenêtre. Madame Perry libéra aussitôt le chouka. Celui-ci retomba sur la pelouse et sautilla 2 ou 3 fois.
« Il vaut mieux l'achever, » dit Perry. « Il est blessé. »«
Laisse-le un moment, » répliqua sa femme. « On ne sait jamais. Les oiseaux se remettent très vite. C'est la frayeur qui leur donne l'air d'être paralysés. »
Effectivement, quelques instants plus tard, dans un dernier effort, et avec un croassement accompagné d'un battement d'ailes, l'oiseau s'envola.
« J'espère qu'il ne va pas retomber dans la cheminée, » s'inquiéta Alice Perry. « Ils ont l'esprit de contradiction, ces oiseaux. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux.
Une fois entrés dans une pièce, ils ne savent plus comment en sortir. « Oh !» fit-elle soudain. « Quelle saleté !»
De la cheminée, il était tombé une quantité de suie, de moellons et de morceaux de briques. De toute évidence, elle n'avait pas été remise en état depuis longtemps.
« Il faudrait que quelqu'un vienne habiter ici !»
soupira Madame Perry en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Il faudrait en effet que quelqu'un s'occupe de la maison, » confirma Tuppence. « Qu'un maçon l'examine et fasse le nécessaire, sinon tout finira bientôt par s'écrouler. »
« De l'eau a dû s'infiltrer par le toit à l'étage supérieur. Oui, regardez le plafond, ça traverse. »
« Quel malheur de laisser une aussi belle maison tomber en ruine, » déplora Tuppence. « Cette pièce est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas ?» Elle regardait autour d'elle et Madame Perry suivit son exemple. La maison datait de 1790 et possédait toute la grâce des constructions de l'époque. On distinguait encore sur le papier peint décoloré les feuilles de saule du dessin original.
« Une ruine salée déjà, » grommela M. Perry.
Tuppence farfouillait dans les débris récemment tombés dans l'âtre.
« Il faudrait balayer tout ça, »
observa Mme Perry.
« Qu'est-ce que tu as à te soucier d'une maison qui ne t'appartient pas ?» intervint son mari. « Laisse ça tranquille, ma fille. De toute façon, ce sera du pareil au même demain matin. »
Tuppence écartait des morceaux de briques avec les pincettes. Soudain, elle poussa une exclamation de dégoût.
Oh !
Deux oiseaux morts gisaient dans les débris. À en juger par leur aspect, ils étaient morts depuis pas mal de temps.
Ça, c'est le nid qui est tombé il y a plusieurs semaines déjà. Un miracle que ça ne sente pas plus fort, déclara Perry.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Tuppence. Avec ses pincettes, elle remua une sorte de paquet de loques recouvert de gravats. Puis elle voulut le prendre en main.
Il ne faut jamais toucher un oiseau mort.
Lui enjoignit Madame Perry. Ce n'est pas un oiseau, rétorqua Tuppence. Il est tombé quelque chose d'autre par la cheminée.
Ça alors, s'exclama-t-elle les yeux écarquillés. Une poupée.
Dépenaillée, déchirée, en haillons, la tête roulant sur les épaules, l'objet avait un jour été une poupée. Il lui tomba un œil.
Voilà qui n'est pas banal, marmonna Tuppence.
Je me demande comment une poupée a pu réussir à grimper dans une cheminée.